Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bienvenue dans l'émission Entre les âges, émission de musique classique présentée par François-Xavier Poisa. Nos invités d'aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Claire Augrel, organisatrice incontournable ici à Genève, et François-Frédéric Guy, un grand pianiste qu'on ne présente plus. Ils sont ici pour nous présenter un concert qui aura lieu samedi 20 mars à 20h, en streaming évidemment, sur www.musicaldecomposière.ch avec l'ensemble Microcosme et au piano, ainsi qu'à la baguette François-Frédéric Guy. Nous reviendrons un petit peu plus en détail sur ce concert et j'aimerais commencer par une petite discussion avec François-Frédéric. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour tout de suite se lancer dans le vif du sujet, je suis allé évidemment voir votre site internet et je vois que au-dessous du titre, au-dessous de votre nom, figure cette phrase « Beethoven est l'alpha et l'oméga de ma vie d'artiste ». Je traduis en français, elle était en anglais. Alors une question un peu provocatrice, pourquoi Beethoven ?
Ah, mais parce que Beethoven est à la croisée des chemins pour moi, c'est-à-dire que c'est la croisée entre l'ancien monde et le nouveau monde. À partir de Beethoven, la musique exprime vraiment tout ce que l'être humain a en lui. Alors qu'avant, bien sûr, il y avait de l'immense musique, mais c'était plutôt la musique de Dieu. Il y avait Bach, Handel, même Mozart dans un certain sens. La musique parfaite, presque un peu trop parfaite. Alors que Beethoven arrive et introduit cette notion d'imperfection humaine et de caractère humain, qu'il arrive à décrire par magie avec des phrases musicales. Et donc ce n'est pas simplement une phrase magique, une beauté intrinsèque, etc. Mais c'est toute la personnalité d'être humain qui est en jeu dans tous ses caractères, d'une phrase à l'autre. Ça peut changer d'une seconde à l'autre. C'est notre univers qui est exprimé en musique. Et ça me fascine complètement.
C'est l'humanité chez Beethoven qui vous fascine.
Oui, l'humanité et l'être humain. C'est-à-dire vraiment la grande histoire de l'humanité. 9e symphonie et plein d'autres choses comme ça. Missa solemnis. Mais aussi la petite histoire de l'être humain avec ses caractères, cette révolte, cette aussi mise en perspective d'un nouvel instrument qui s'appelle le piano. Et c'est lui le premier qui fait vraiment développer et qui fait innover les facteurs d'instruments et qui les oblige à trouver des solutions pour que lui-même puisse exprimer tous ses fameux sentiments, plus de puissance, plus de virtuosité, plus d'expression, plus de variété de timbres, plus de notes aussi. Le piano s'étend aussi bien dans l'aigu que dans le grave, et Beethoven stimule les facteurs de piano pour ça. Donc c'est un peu tout, c'est une révolution gigantesque. C'est au niveau macrocosmique et au niveau microcosmique.
Et oui, pour l'aspect microcosmique, on va y venir.
Quel enchaînement.
Question un peu plus prosaïque, François-Frédéric Guy. Comment s'est passé pour vous le 250e anniversaire, donc l'année 2020?
Eh bien, pour ne rien vous cacher, le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven devait être un petit peu mon apothéose de ma carrière, c'est-à-dire l'année où j'avais le plus de concerts, le plus d'engagements dans différents pays du monde, en France aussi, bien sûr. Et puis, voilà, cette année qui s'est complètement scratchée, on peut le dire, sur la pandémie, avec tous les concerts annulés, avec le fait aussi de se retrouver en danger, hein, dans sa vie personnelle. Souvent, le public ne se rend pas forcément compte de ça, mais c'est évidemment un danger dans notre vie d'artiste, puisqu'on n'a plus l'occasion de s'exprimer pour le public. Mais aussi, bêtement, dans la vie quotidienne, car c'est un métier ce que nous faisons. C'est une passion et un métier, et voilà, si on gagne plus d'argent, ben, on peut plus payer nos maisons, on peut plus... Comme tout un chacun, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésor caché dans le jardin, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Alors, ça a créé une sorte, évidemment, de tension. Il faut trouver des solutions, il faut faire attention, il faut espérer. Mais bon, on garde une énergie extrêmement positive, hein, et puis... j'en profite pour le dire au micro, grâce à des gens comme Claire qui nous font confiance et qui arrivent malgré tout à faire jouer les musiciens, dit bon ok, il n'y aura pas de public mais on va le faire en streaming, on va tout faire pour faire quelque chose et faire de la musique ensemble, ben voilà, on survit grâce à des gens formidables comme ça.
Cette énergie positive, on la sent très fortement quand vous parlez. C'est vraiment un plaisir de vous entendre inspirer ainsi. Espérons que toutes ces difficultés ne fassent que diluer cette grande célébration du quart de millénaire de Beethoven et que pour les nombreuses années à venir, nous continuons de rattraper le temps perdu en 2020.
Oui, et notamment, on a encore, grâce au hasard du calendrier, on a une chance immense de se rattraper puisque en 2027, nous fêterons le 200e anniversaire de sa mort.
Oui. Donc, voilà. Donc espérons que nous célébrerons au moins pendant 7 ans d'ici 300e. Là. Et vous dirigez les concertos depuis le piano, il me semble. Vous faites pas mal de direction d'orchestre.
Oui, ça fait une dizaine d'années que j'aime beaucoup me confronter à l'orchestre et non pas seulement au chef d'orchestre. C'est-à-dire vraiment être en relation directe avec les musiciens. Et d'ailleurs, le terme de confrontation n'est pas très bien choisi, car pour moi, c'est justement pour éviter cette confrontation que j'ai eu envie de retrouver tout bêtement la manière dont Beethoven, Mozart, jouaient leurs concertos. C'est-à-dire, ils dirigeaient du piano, il n'y avait pas de chef. Donc, ils ont été conçus au départ pour être joués de cette manière. Et donc, d'être aussi à nouveau, comme on disait tout à l'heure, à la croisée des chemins, c'est-à-dire entre le concerto, la musique de chambre, la symphonie. Les trois choses dans la même œuvre. C'est-à-dire que le soliste devient chef, le chef est soliste, les instrumentistes sont dans l'orchestre, mais font aussi de la musique de chambre interactive avec le pianiste qui est chef. C'est un espèce de ballet incessant. Et on retrouve donc une cohésion incroyable qui peut exister évidemment avec les chefs. Je rappelle que j'avais enregistré ces concertos il y a une dizaine d'années avec Philippe Jordan, qui est cher au cœur des Suisses. Et bien que maintenant il prenne la direction de l'Opéra de Vienne, après avoir dirigé celui de Paris pendant 10 ans. Et nous avions fait, je pense, quelque chose de très convaincant du point de vue musical. Mais c'est vrai que là, j'ai voulu, dans mon dernier enregistrement avec le Symphonia Varsovia, vraiment retrouver cette cohésion du jouet-dirigé, puis qui m'a amené peu à peu à enlever le piano et à aussi faire des deuxièmes parties symphoniques parce que mon appétit de Beethoven avait besoin aussi de se confronter à la direction et aux symphonies de Beethoven qui restent aussi une révolution complète dans l'univers de l'orchestre, de la puissance d'expression, du volume, de la dynamique, du rythme, de tout, quoi.
Avant d'écouter un petit peu de musique, je vous pose une question un peu légère. Est-ce que vous voyez plutôt l'orchestre comme un piano géant ou le piano comme un orchestre miniature ?
Joli.
Les deux, en fait. C'est drôle que vous me parliez de ça, parce que quand j'avais 15 ans, que je faisais mes études au CNSM de Paris, au conservatoire, je n'écoutais que de l'orchestre. Et donc, à chaque fois, ce son d'orchestre imprégnait mon piano et mon pianisme. Donc, j'avais toujours l'impression que ce que je jouais devait être une réduction, non pas une réduction, mais une transcription pour orchestre. Et, à contrario maintenant, quand je dirige un orchestre, forcément, j'ai aussi des réflexes de pianiste, dont certains qu'il faut oublier, parce que le temps de l'orchestre, même du point de vue, j'allais dire, de la spatialisation, de la rythmique, est un petit peu différent de celle du pianiste. Le piano joue et le son arrive directement. Nous, quand on dirige l'orchestre, il y a un décalage avec la battue et le son. Et ça, c'est une chose au départ dont on ne se rend pas forcément compte. Mais pour un pianiste, c'est très difficile à gérer. Mais évidemment, on s'habitue. En tout cas, oui, l'histoire du piano qui est un petit orchestre, un orchestre miniature, et l'orchestre qui pourrait être aussi un très très grand piano. Oui, ça me plaît.
Restons avec Beethoven et écoutons maintenant un mouvement, le dernier mouvement de la 4e sonate pour violon et piano, opus 23, que vous avez interprété avec Teddy Papavrami, un choix qui nous fait très plaisir, puisqu'il habite à quelques pas d'ici.
Oui, à quelques kilomètres du studio.
Exactement. Et c'est un grand violoniste. Nous écoutons ce mouvement de cette sonate de Beethoven.
Thank you.
Radio Cité Genève.
C'était le mouvement final de la quatrième sonate pour violon et piano, opus 23, interprété par Teddy Papavrami au violon et François-Frédéric Guy au piano, notre invité d'aujourd'hui, avec Claire Augrel, l'organisatrice du concert de ce samedi 20 mars en streaming sur www.musicaldecomposière.ch avec François-Frédéric Guy au piano et l'ensemble Microcosme. Beethoven, c'est donc votre alpha et votre oméga. Et j'ai lu aussi sur votre site internet un grand projet Beethoven qui s'étale sur plusieurs années. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Oui, maintenant, après tant d'années, je dirais que c'est un projet qui est quasiment permanent. C'est un projet qui se régénère de lui-même. Mais au départ, le projet a commencé en 2008 exactement, quand j'ai joué pour la première fois en public les 32 sonates. Et de cette première intégrale, c'était au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, je m'en souviens très bien, de cette première intégrale est née une idée d'une espèce de projet, Beethoven Project, en trois actes avec les sonates, les concertos et la musique de chambre. Donc on puisse vraiment avoir un panorama relativement complet, puisque parallèlement aux sonates, j'étais en plein travail et en plein enregistrement avec Philippe Jourdan, comme je l'ai mentionné, l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'époque, pour enregistrer les concertos et les jouer dans une salle où on ne joue plus de musique classique à Paris maintenant, c'est la salle Pleyel, qui était célébrissime à l'époque. Et maintenant, nous sommes à la Philharmonie, ce qui n'est pas mal non plus. Et puis, s'est ajouté le troisième acte de la musique de chambre, notamment avec Teddy, et puis avec Xavier Philips, magnifique violoncelliste, qui vient assez souvent avec l'orchestre de la Suisse romande, ici. Et nous avons enregistré avec Xavier les sonates, avec Teddy les sonates aussi, pour chacun de leurs instruments. Et nous avons en projet, bien sûr, de terminer ces enregistrements par l'intégrale des trios, qui est une des plus sublimes intégrales de musique de chambre qui puisse exister, tellement variée, tellement riche. Et voilà, c'était les trois premiers grands axes du Beethoven Project. C'est ajouté évidemment le jouet dirigé et puis la direction de certaines symphonies. Je ne pouvais pas concevoir un Beethoven Project sans me confronter à l'œuvre symphonique. Et la première symphonie que j'ai dirigée, c'était la cinquième. Au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris, je me souviens, il y a 2 ans. Et évidemment, c'était quelque chose d'impressionnant pour un pianiste de commencer ce début de la cinquième symphonie. C'est quelque chose d'assez émouvant et assez impressionnant. Et depuis, j'ai dirigé plusieurs symphonies. La quatrième, que nous ferons samedi avec l'ensemble Microcosme. La cinquième, la septième, et je vais faire la neuvième symphonie en fin d'année avec l'Orchestre de l'Opéra de Limoges en France.
Peut-on rêver d'un enregistrement de toute l'œuvre de Beethoven sous vos doigts et voire même sous votre baguette ?
Non, non, ce n'est pas une histoire de volonté de faire une espèce de comme ça d'exploit. C'est au gré de l'inspiration. Je pense que de toute façon, je réenregistrerai une seconde fois l'intégrale des sonates, ça c'est certain, probablement pour l'anniversaire 2027 qu'on espère cette fois-ci vraiment. Qui aura lieu sans pandémie et avec tous les concerts et les disques possibles et imaginables. Et puis, je continue mon travail avec l'orchestre quand on me le propose. Les réponses, pour l'instant, sont positives. Au début, je le faisais un peu pour voir ce que ça a donné. Comme je l'ai expliqué, j'ai commencé par le jouet dirigé et par Beethoven parce que c'est ce que je connaissais le mieux. Donc, je pensais que je pouvais avoir une certaine légitimité dans ce répertoire. Et puis, j'ai élargi un petit peu. J'ai dirigé beaucoup de Mozart, beaucoup de concertos, des symphonies. J'ai fait même un petit peu de musique contemporaine, des pièces de Penderecki dirigées sans piano cette fois-ci, du symphonique. Et voilà, j'essaye au fur et à mesure d'apprendre et puis de diriger les œuvres que je connais bien et dans lesquelles je peux apporter quelque chose de neuf à un orchestre qui les a quelquefois jouées des dizaines de fois, qui les connaît sous toutes les coutures. Mais tout d'un coup, je vais apporter un éclairage parce que cette expérience du Beethoven Project fait que voilà, je parle la langue de Beethoven, si on peut dire.
Vous avez beaucoup parlé de Beethoven, vous venez de mentionner Penderecki, je crois que vous êtes aussi un fervent défenseur de nombreux compositeurs vivants. Comment est-ce que vous situez cette musique parfois atonale, parfois difficile à cerner ou à étiqueter? Est-ce que c'est la poursuite d'une histoire ou c'est quelque chose d'absolument iconoclaste et de nouveau qui est en train de s'écrire selon vous?
Pour moi, c'est toujours la continuité de l'histoire, en tout cas pour les compositeurs dont la musique est appelée à rester, j'allais dire, à laisser une trace. vous savez, la blague que Schoenberg disait quand on a créé son premier quatuor à cordes à Vienne avec soprane. Il y avait d'ailleurs Gustav Mahler dans la salle, qui a applaudi très fort pendant que tout le monde hurlait et se moquait de Schoenberg. Et quelqu'un vient le voir en coulisses, et un admirateur, hein, mais qui vient lui dire « Arnold, je comprends pas pourquoi tu n'écris pas comme autant de la nuit transfigurée, voilà, cette musique. » Et il a répondu « Mais c'est ce que je fais, je n'y peux rien si vous ne vous en rendez pas compte. » Donc pour lui, cette boutade voulait dire, cette blague, en fait, j'écris toujours la même musique. Le matériau est un peu différent, mais mon inspiration est toujours là. C'est la même musique. Simplement, bon, la musique atonale, maintenant, c'est quand même une vieille histoire, hein, entre nous. Hein. Ça a plus d'un siècle, donc c'est plus de la nouvelle musique. Simplement, je la comparerai pour aider un peu les auditeurs qui, quelquefois, peuvent être un peu rebutés par la musique atonale. Je la comparerai à la peinture abstraite. Picasso ne s'est pas... n'est pas devenu cubiste en un jour. Il a commencé par la période bleue, et puis après, il y a eu des périodes de transition pour finalement arriver à Guernica. Donc, la musique, c'est la même chose. Il ne faut jamais voir la musique atonale juste comme quelque chose, une entité. Ça vient de quelque chose. Les premières pièces de Schoenberg viennent de Brahms, de Wagner. Et donc, il n'y a pas de... Il faut juste faire un tout petit effort, et c'est plus difficile que pour la peinture, parce que la musique passe et on ne peut pas revenir dessus. Elle va d'un point à un autre, alors qu'un tableau, même si c'est un tableau abstrait, on peut rester devant, réfléchir, se faire conseiller, etc. La musique, même la musique atonale, on ne peut pas dire « Ah stop, j'ai pas bien compris, est-ce que je peux revenir en arrière ?» Voilà. C'est la difficulté du matériau musical, des appareils, de ce qui véhicule la musique, du concept même de la musique, d'aller d'un point à un autre. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile d'écouter de la musique atonale que de regarder un tableau abstrait. Mais pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas que les aquarelles qui sont belles. Je veux dire, si on s'était arrêté aux aquarelles, on aurait quand même raté beaucoup de choses dans la peinture. Ça, et la musique, c'est pareil. La musique ne se résume pas à la musique qui a des jolis thèmes avec bien harmonisés. La musique, c'est beaucoup plus que ça. Quelquefois, quand elle est horrible, elle peut être très expressive. Le début de la 9e symphonie de Mahler, par exemple, c'est absolument affreux. Objectivement, on entend des sons inquiétants, même pas en rythme, après des harmonies distordues, comme quand on se regarde dans un miroir qui déforme les visages. Mais en même temps, cette affreuseté est d'une beauté absolument transcendante.
Eh bien, laissons les auditeurs décider si le prochain morceau est affreux ou transcendant.
Exactement.
Il s'agit d'un des compositeurs que vous défendez, Marc Monet. Vous parliez de peinture, celui-ci a un N de plus que le peintre.
Exactement.
Il s'agit des deux premières pièces du premier livre de son recueil en pièces. Et c'est vous, François-Frédéric Guy, qui interprétez ces deux premières pièces. On écoute. Thank you.
Radio Cité Genève.
C'était de Marc Monet, les deux premières pièces du premier livre de son livre En pièces.
En pièces de Monet, naturellement.
Merci François-Frédéric Guy. C'est vous qui jouiez ces deux œuvres de ce compositeur vivant que vous défendez. Je me tourne maintenant vers Claire Ogrel, donc l'organisatrice des musicales de Composières. Alors vous me corrigez, hein, mais c'est un festival qui a lieu plusieurs fois par an, avec je crois à chaque fois trois concerts, dans l'église de Composières à Bardonnay, à Genève. Quelle est l'histoire de ce festival ?
Alors oui, effectivement, l'histoire ce n'est pas vraiment ce que je peux appeler un festival pour moi. C'est plutôt une saison musicale qui se répète maintenant depuis 14 ans. L'historique de cette saison artistique est venue de la réfection de l'église qui a eu lieu en 2006 après des fouilles archéologiques monumentales qui ont prouvé que ce lieu est un lieu ancestral de religion puisque les archéologues ont trouvé jusqu'à une église carolingienne. À savoir qu'au 5e siècle, il y avait déjà un lieu de culte sous l'église de Composières. Le service d'archéologie a été au bout des fouilles, donc maintenant plus jamais on fouillera dans ce lieu. Mais on sait que si ce lieu est empreint de toute cette belle ambiance et de ces émotions, il y a aussi de ça. Ça veut dire que ici, beaucoup de choses se sont passées. En plus, il y a la commanderie qui est en face, qui est un lieu des chevaliers de Malte, un lieu de passage pour le chemin de Compostelle. Ce lieu est chargé de belles émotions et de belles ondes. Alors, l'histoire c'est parti de quelque chose de très bête, à savoir le chauffage n'était plus d'appoint. La paroisse a décidé de refaire le chauffage. Évidemment, quand on enlève, c'était des tuyaux de chauffage sous les pieds. Quand on commence à toucher une église, le service d'archéologie arrive en disant « stop ». Nous, on arrive, on vient voir ce qu'il y a dessous. C'est ce qui s'est passé. Les travaux devaient se tenir pendant une année. Et en fait, il y a eu 2 ans et demi de fouilles archéologiques pour découvrir un souvenir de notre histoire magnifique sous cette église. Mais après les fouilles archéologiques, il a fallu reconstruire cette église. À savoir que le comité de la paroisse, cette église s'appelle Saint-Sylvestre. Le comité Saint-Sylvestre a fait, bien sûr, reconstruire l'église et a voulu que ce lieu devienne aussi bien un lieu de culte, puisque c'est sa mission première, et un lieu culturel. Comme tout était possible, ils ont fait venir des acousticiens, des ingénieurs, et ils ont voulu travailler pour qu'on arrive à trouver la situation idéale que nous avons aujourd'hui avec une acoustique magnifique, avec un plancher un petit peu en pente. C'est vraiment, on ne voit pas du coup une impression, ça donne pas l'impression d'estrade, mais si on remarque, le plancher est en bois et il est un petit peu en pente. Et quand ils ont reconstruit, moi je suis native du cru, du coin, et ils sont venus me chercher en me disant « Écoute, tu es la seule professionnelle de la région, de notre village, s'il te plaît, monte-nous un projet artistique pour que les grands bureaux de concert ne s'approprient pas ce lieu, pour que tu restes, puisque j'aimais tous ces gens, j'ai grandi avec eux ». Que je reste, que ces musicales de Composières leur appartiennent en propriété propre. Voilà comment sont nées les musicales de Composières. Les fouilles ont été finies en 2005-2006. Les travaux de réfection étaient fin 2006. Ils sont venus me chercher. Et en 2007, les musicales de Composières ont commencé. Ça fait 14 ans maintenant. Et c'est une très belle aventure. Quand vous parliez du cycle des concerts, nous avons gardé le même rythme, à savoir 3 grands week-ends de musique par saison, un à l'automne, en général au mois de novembre, l'autre au mois de mars et le dernier soit en mai ou en juin, en fonction des dates de Pâques, bien sûr, il faut regarder tous ces agendas. Et chaque fois, 3 concerts, un vendredi soir qui est en général pour des ensembles ou des solistes, le samedi soir pour un ensemble orchestral et le dimanche en musique vocale. Et c'est une programmation d'oratorio. Et 14 ans après, nous gardons toujours un peu ce rythme. Ce qui a changé un petit peu, c'est que au début, il y avait soliste, jeune soliste, soliste confirmé et musique d'oratorio. Maintenant, une nouvelle aventure a commencé il y a 6 ans maintenant, avec une résidence d'artistes pour des jeunes ensembles, en résidence des jeunes ensembles orchestraux en formation. C'est le deuxième que je reçois. Le premier a été la Camerata du Léman, qui est un des ensembles magnifiques à Genève, qui maintenant vole de ses propres ailes. Le deuxième est cet ensemble Microcosme. Et l'ensemble Microcosme a été fondé maintenant il y a 4 ans. Et François-Frédéric Guy pourra vous donner un petit peu le résultat des premières répétitions. Il les connaissait déjà depuis l'été passé, oui. Puisque nous avions monté un triple de Beethoven avec toi pour le festival à Champéry.
Oui, absolument. Et je dirais que du point de vue du soliste ou du chef d'orchestre, la première impression est surtout... le très très haut niveau musical de chacun des instrumentistes. Et je pense que c'est ce qui fait que au final, quand ils se retrouvent ensemble, ils ont chacun une exigence non seulement d'un pupitre par rapport à l'autre, mais une exigence globale aussi par rapport à moi, ce que je peux demander. Et ça produit en très peu de temps un résultat spectaculaire au niveau musical. Vraiment une cohésion, une compréhension mutuelle... Une bienveillance, mais dans l'exigence, parce que c'est ça, hein, une répétition ou même un concert, c'est pas être gentil pour être gentil, c'est parce que ça, c'est pas l'histoire. C'est pas être féroce pour obtenir quelque chose à tout prix, non. C'est l'intérêt bien compris et qui est au service d'un intérêt supérieur. Et donc, si on a ça vraiment bien en tête, ça fonctionne et pour moi, c'est vraiment le cas.
Et aussi le feeling entre vous.
Ah oui, bien sûr.
Parce que je crois vraiment que, comme dans la vie, je crois que les rencontres artistiques sont des vraies rencontres.
Ah oui.
Il y a un soliste, il y a un ensemble. Parfois, ça marche. Parfois, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autres fois, on fait de la musique et basta.
Oui.
Tandis qu'il y a, quand vraiment la rencontre est là, c'est comme dans des rencontres amoureuses.
Oui.
De temps en temps, tout d'un coup, on a la flamme
tout
et
marche.
Un coup de foudre et tout, oui, marche.
Et tout marche.
Et parfois, ben voilà, c'est une jolie histoire, mais oui, elle va s'arrêter. Mais peut-être que la nôtre ne va pas s'arrêter.
Elle va s'arrêter là.
Donc, une belle rencontre à découvrir ce samedi 20 mars à 20h. En streaming, évidemment, une rencontre à découvrir entre des artistes, entre François-Frédéric Guy au piano, à la baguette et l'ensemble Microcosme au festival, la série de concerts des musicales de Compozière qui vaut le coup, pas seulement pour la musique, mais aussi pour l'histoire du lieu, une histoire...
C'est vrai que c'est une jolie histoire.
Très, très jolie histoire d'au moins 15 siècles. Et est-ce que vous voulez nous présenter le programme de... À quoi on doit s'attendre ce samedi?
Alors, ce samedi, oui, bien sûr, mais déjà, il y a un vendredi. À savoir que, comme je venais de vous expliquer, nos sessions musicales sont toujours de 3 concerts. Donc, il y a un vendredi, un samedi et un dimanche. Là, en l'occurrence, avec François-Frédéric Guy, il s'agit du samedi. Mais le vendredi, il y aura déjà un concert pour le temps de Pâques, dans lequel j'ai invité Théophile Alexandre, le contre-ténor français dont beaucoup parlent maintenant. Il avait créé une série de concerts et il a fait une tournée avec un ADN baroque. C'est Théophile Alexandre est un contre-ténor qui a été danseur aussi et qui prévoit ses concerts en globalité. Mais c'est un très très beau, un très beau chanteur. Et je l'ai invité dans le Stabat Mater et le Nisi Dominus de Vivaldi. Alors, en l'occurrence, pour cette fois-là, pour ce concert-là, ce sont les solistes de l'ensemble Microcosme qui joueront avec lui. Et bien sûr, il a voulu jouer en 415. Donc, difficulté quand même pour nos instrumentistes, oui, modernes qui se sont fait prêter des archets baroques. Donc, ils ont envie quand même de... Alors voilà, c'est un grand travail qui se met en place pour ce vendredi. Et parallèlement, donc ça, ce sera vendredi, pour le temps de Pâques avec Vivaldi, Stabat Mater, Nisi Dominus et Théophile Alexandre, le samedi avec François-Frédéric Guy. Et malheureusement, j'ai dû, à cause de la pandémie, annuler le concert du dimanche parce que j'avais invité un ensemble de Toulon qui s'appelait Musica Antiqua Mediterranea pour un autre Stabat Mater, mais cette fois celui de Pergolèse.
D'accord, mais en tout cas, deux concerts à ne pas manquer ce week-end. Et on reste dans le thème symphonique avec le premier mouvement de la 13e symphonie de Chostakovitch, surnommée Babillard. C'est le célèbre Concertgebouw sous la baguette de Bernard Haitink qui l'interprète.
Trovlik Radio Cité Genève.
C'était le premier mouvement de la 13e symphonie de Chostakovitch, Babillard, par le Concertgebouw sous la baguette de Bernard Haitink. François-Frédéric Guy, vous êtes notre invité aujourd'hui. J'aimerais revenir sur une anecdote qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est apparue dans pratiquement tous les journaux de la presse écrite française, en tout cas, qui traite de musique classique. C'est une anecdote à la fois lourde et légère, une anecdote tristement amusante et qui illustre très bien ce que nous, hein, les musiciens, avons dû endurer en ces temps de crise et endurons encore d'ailleurs. Oui. Alors, je propose de la raconter et je vous laisse la chute. Et vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc ça se passe en octobre 2020. Vous êtes invité à Hong Kong pour jouer en deux concerts, je crois, l'intégrale des 5 concertos de Beethoven.
Oui.
Mais pour pouvoir les donner, il faut accepter une quarantaine de 14 jours.
C'est ça.
Et dans ces pays-là, la quarantaine, c'est pas un simple formulaire à l'aéroport. Vous êtes enfermé dans une chambre d'hôtel. Vous ne pouvez même pas physiquement quitter la chambre. Alors même si c'est un 5 étoiles, 14 jours...
Bracelet électronique... Obligation de contrôle, de vérifier plusieurs fois par jour qu'on est dans le périmètre, qu'on a au préalable scanné, drone au-dessus des fenêtres de l'hôtel, enfin la science-fiction quoi, nourriture posée par terre, on n'arrive jamais à voir quelqu'un du personnel, même si on se précipite sur la porte, il n'y a jamais personne derrière, et bien sûr clé à usage unique, c'est-à-dire que si on se retrouve dehors par inadvertance, c'est retour direct à Paris.
Mais vous aimez tellement Beethoven que vous acceptez ces conditions.
Exactement.
Pour aller faire ces concerts à Hong Kong. Vous endurez 14 jours d'enfermement. Et au moment de sortir, au moment où vous rejoignez l'orchestre pour la première répétition, que se passe-t-il ?
Eh bien, je vais essayer le piano sur scène. Tout se passe bien, tout se présente très bien. Je suis gonflé à bloc après cette quarantaine... Et c'est surtout cette libération de quarantaine. Et puis, j'apprends malencontreusement que l'un des musiciens du Hong Kong Philharmonic a été testé positif après leur premier concert qu'ils avaient fait une semaine avant, le concert d'ouverture de la saison. Et donc, ce qui a entraîné mécaniquement l'annulation de nos concerts, la fermeture totale de la salle pour désinfection, fermeture de 15 jours de la salle, désinfection totale du bas en haut, même le moindre tuyau désinfecté, mise en quarantaine des musiciens, et alors là, c'était pas dans un 5 étoiles, hein, je peux vous dire, c'était dans des containers dans lesquels ils pouvaient pas travailler, hein, séparés de leur famille. Ah oui, c'est ça la vérité. Hein. Mais ça a été très très dur, et puis moi, retour à la case départ, retour à Paris, sans avoir joué, et voilà, on attend toujours maintenant la possibilité de réaliser ce merveilleux projet, où je devais diriger du piano pour la première fois un orchestre aussi prestigieux que le Hong Kong Philharmonic, et voilà, on attend. Mais Beethoven vaincra.
Et j'ai même lu quelque chose d'encore plus croustillant, qui est que si vous étiez arrivé quelques minutes avant ou après... Que se serait-il passé ?
Mais si j'étais arrivé... En fait, si on avait commencé la répétition, ne serait-ce que quelques secondes ou minutes, j'aurais dû moi-même faire une nouvelle quarantaine de 15 jours après avoir été ce qu'on appelle désormais célèbrement, tristement célèbrement, cas contact. Et alors là, ça aurait voulu dire pour schématiser, que j'aurais fait un mois de quarantaine sans jouer. En
pour
fait.
Rien, quoi. Voilà.
Voilà. Mais heureusement, ça ne s'est pas produit.
Heureusement. Et oui, c'est une histoire qui vous suivra longtemps. Et c'est tant mieux, quelque part, car elle illustre à merveille ce que vous êtes prêt à endurer pour défendre la musique de
bien
Beethoven.
Bien sûr. Et puis pour exister, pour continuer à jouer, c'est sûr, on le fera. On continuera à le faire tant que ce sera nécessaire.
Alors, consolons-nous de ces concerts que vous n'avez pas donnés en écoutant maintenant un concerto de Beethoven que vous interprétez avec le Sinfonia Varsovia. Il s'agit du mouvement final du 5e concerto, le concerto L'Empereur.
Thank you. Radio Cité Genève.
C'était le dernier mouvement du 5e concerto de Beethoven, sous les doigts de François-Frédéric Guy, qui était notre invité d'aujourd'hui, avec Claire Ogrel, l'organisatrice des musicales de Compozières. Alors avant de nous quitter, Claire Ogrel, pouvez-vous nous rappeler les deux concerts que nous pourrons assister ce week-end en streaming sur www.musicaldecompozières.ch?
Oui, alors il y aura déjà le premier concert, un concert pour le temps de Pâques, le vendredi 19 mars à 20h. Ce sera Théophile Alexandre, le contre-ténor français, qui viendra chanter le Stabat Mater de Vivaldi, ainsi que le Nisi Dominus. Et il sera accompagné pour l'occasion par les solistes de l'ensemble Microcosme. Ensuite, le samedi 20 mars à 20h également, ce sera le concert qui nous intéresse aujourd'hui puisque François-Frédéric Guy a été l'invité de cette émission. Un concert qui sera donné par l'ensemble Microcosme avec donc sous la direction et au piano de François-Frédéric Guy. Et au programme, il y aura l'ouverture de Don Giovanni. François-Frédéric jouera le 20e concerto de Mozart et ensuite il dirigera la 4e symphonie de Beethoven.
Merci Claire Ogrel, merci François-Frédéric Guy d'avoir accepté notre invitation. Quittons-nous maintenant avec un extrait du dernier mouvement final de la 8e symphonie de Mahler, Chorus Mysticus, interprété par le London Philharmonic Orchestra sous la baguette de Klaus Tennstedt. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous, merci à Olivier Steinmetz pour la production et à bientôt sur Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.